Interview.
RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Nouveau compte-rendu de mandat radiophonique en compagnie de Corinne Morel-Darle. Bonjour.
Bonjour.
Retour sur cette plénière du 17 novembre 2016. C'est donc très très frais avec un grand nombre de points. On va donc essayer d'aborder cette plénière en tout cas dans toute sa diversité parce que d'ailleurs ça fait déjà bien longtemps que vous n'en aviez pas fait.
Mais oui,
et donc
c'est
ça
vrai.
Fait accumuler les dossiers.
Oui, ouais, tout à fait. Ça fait effectivement 2 mois qu'on s'est retrouvés sur la dernière plénière. Donc effectivement, les rapports s'accumulent pendant ce temps-là. Et puis ça risque d'être encore pire l'année prochaine, en 2017, hein, puisque on n'a que 2 plénières de prévues, une en février et une fin juin. Et puis entre les deux, on imagine que tout le monde va se concentrer sur la présidentielle et les législatives, ce qui est quand même un peu dommage parce qu'il y a quand même des rapports, des dossiers, des projets à faire avancer. Et puis une fois de plus, malheureusement, l'action de la région va être un peu paralysée par ces campagnes électorales, ce qui est tout à fait déplorable.
Alors du coup, question très facile à vous, Corinne Morel-Darleux, vous-même avez un pied dans ces présidentielles, ça ne vous prend pas du temps non plus, avec le rôle que vous avez sur le parti de gauche ?
Non, parce qu'en général, ça coïncide avec le travail militant que je fais de toute manière toute l'année, et présidentielle ou non. Donc ça ne rajoute pas de travail, ça vient juste le rendre peut-être un petit peu plus utile, un peu plus visible. Mais ça ne change pas grand-chose en réalité à mon engagement et à mes habitudes.
L'autre question que j'avais, 2 plénières, est-ce bien légal finalement ? C'est possible de se réunir aussi peu ?
Ah tout à fait, c'est le président de région qui décide, hein. On le dit suffisamment souvent.
Il n'y a pas une obligation dans un truc, au moins 5 fois par an
Hélas, c'est le régime de monarchie présidentielle de la 5e République qui se retrouve aussi au niveau de la région. Donc non, il n'y a pas d'obligation légale et c'est une espèce de tradition institutionnelle, effectivement, que pendant les campagnes électorales, le rythme s'allège. Une tradition un peu stupide à mes yeux et qu'on devrait pouvoir changer, mais visiblement Laurent Wauquiez reste dans son rôle très conservateur et traditionnaliste avec ça aussi.
Ce qui donne, je l'ai noté, 5000 pages à traiter en 10 jours.
Oui, c'est comme à chaque fois, hein, c'est toujours un marathon incroyable parce qu'on a tout d'un coup effectivement plus de 5000 pages de rapports et de dossiers qui tombent dans notre boîte mail, généralement la veille des commissions thématiques. Alors évidemment, c'est un peu juste pour pouvoir les regarder avant d'aller en commission et pour pouvoir poser les bonnes questions. Et puis ensuite, on a 4 jours pour déposer des amendements sur ces textes et en tout seulement 10 jours entre le moment où on reçoit les rapports et le moment où on est censé les voter. Donc c'est toujours des périodes très intenses, d'autant plus quand on essaye de travailler en lien avec les acteurs, les réseaux, et qu'il faut faire circuler l'information dans tous les sens, recueillir les avis, en faire la synthèse, rédiger les amendements et puis décider collectivement d'une position du groupe.
Est-ce qu'il y a une habitude là qui a été prise quand même à cette urgence? Vos réseaux réagissent vite, en peu de temps?
Oui,
pas dire ça.
Alors ça dépend des sujets. Là, sur le sujet qui m'a beaucoup occupé sur cette session, qui est la question de l'agriculture paysanne et biologique, on a la chance d'avoir des réseaux constitués, des partenaires avec lesquels je travaille depuis des mois, voire des années, donc qui répondent présents, puis qui répondent d'autant plus présents qu'ils sont sur la sellette et que ça les intéresse évidemment d'avoir les infos et de voir comment on essaye de contrer la casse qui est mise en œuvre aujourd'hui par Laurent Wauquiez. Après, sur d'autres sujets, c'est moins facile parce que on a des interlocuteurs qui sont pas forcément militants, qui hésitent un petit peu à prendre des risques, à s'engager en termes de visibilité. C'est le cas par exemple sur la formation professionnelle, où c'est plus difficile, évidemment, et ça se comprend, hein, c'est légitime, de mobiliser des gens qui travaillent dans les Greta, par exemple, et qui n'ont pas envie de perdre leur boulot, quoi.
Donc ce très peu de temps pour étudier tous ces dossiers, ce très peu de temps également pour réagir, on l'a déjà détaillé je crois dans des précédentes émissions, c'est évidemment pour un travail de sape, tout le monde ne va pas prendre le temps que vous prenez là pendant 10 jours pour tout étudier à fond. On rentre, puisque ça a été cité, droit dedans, après le plan neige, le plan bio, j'aime bien cette appellation, toujours mettre des plans. Ce plan bio, est-ce qu'on pourrait le détailler rapidement? Qu'est-ce qui va vraiment changer là en Auvergne-en-Alpes?
Alors, rapidement, parce que c'est un plan sur lequel y aurait énormément de choses à dire. Moi, j'ai déposé au nom du rassemblement 8 amendements.
8 amendements.
Et on en a débattu pendant plus d'une heure en session. Ce qui change le plus, le fait le plus marquant, c'est que en fait, ce plan bio correspond à un espèce de gigantesque transfert de fonds de plus de 500 000 euros des réseaux associatifs existants vers les chambres départementales d'agriculture, qui sont majoritairement tenues aujourd'hui par le syndicat dominant, la FNSEA. Ce qui n'est pas très étonnant, hein, puisque Laurent Wauquiez, pendant sa campagne, s'est beaucoup affiché comme proche de ces réseaux de la FNSEA. Il y a d'ailleurs plusieurs élus régionaux qui en sont issus. Il y a l'ancien président, notamment de la Chambre d'agriculture du Rhône, Dominique Desprats, qui est précisément l'élu régional qui a piloté cette délibération. Donc tout ça n'est pas très surprenant, mais ça fait très mal, puisque on risque de voir la disparition d'un certain nombre de structures et puis de dispositifs qui existaient. Je pense à la revue La Luciole, par exemple, qui accompagnait les paysans en bio. Je pense au pôle Appui Bio, qui était un lieu de concertation aussi pour ces agriculteurs. Les fermes de démonstration, toute une vision de l'agriculture bio dans notre région qui est menacée de disparaître au profit d'une autre vision de l'agriculture biologique, celle des agro-industriels, puisqu'on voit également arriver dans ce nouveau plan un lobby de l'industrie agroalimentaire comme l'ARIA, par exemple, qui est aujourd'hui présidé par l'ancien directeur de communication de l'Imagrin. Voilà, ça donne toute la nouvelle coloration et toute la teinte qui est donnée à la bio dans notre région.
Ce plan bio, en même temps, était quasi prévisible avec ce qu'on avait déjà évoqué aussi sur cette antenne. Il y avait déjà eu des transferts de compétences exclusives vers les chambres d'agriculture, notamment. Il y a ce fameux plan chasse, éducation à l'environnement. Tout ça se ressemble?
Oui, il y a de toute évidence une logique qui est celle de la nouvelle majorité. Donc ça, c'est pas forcément très surprenant. Après, il y a des choses plus surprenantes dans cette délibération. Moi, il y a un élément qui m'a beaucoup marqué, c'est que on trouve rien dans ce plan bio sur les cantines des lycées. C'est très étonnant parce que le texte prend acte du fait que l'agriculture biologique, la demande est en pleine croissance, qu'il faut donc plus de producteurs pour répondre à cette demande au niveau local. Mais pour autant, il n'y a rien sur un objectif d'introduction d'aliments bio dans les cantines des lycées, qui est pourtant une des compétences majeures de la région. Et donc j'ai posé la question en commission et je l'ai reposée en session. Et effectivement, ce n'est pas l'objectif de la région. Donc l'objectif de la vice-présidente Émilie Bonnivard notamment, c'est de mettre des produits locaux, mais pas forcément bio, dans les assiettes de nos enfants, ce qui est quand même très étonnant lorsqu'on considère les impacts sur la santé, sur l'environnement. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui, pour moi, dépasse les clivages idéologiques, politiques, et qui est vraiment du ressort de l'intérêt général. Et je trouve très étonnant, vraiment, ce refus d'introduire la bio dans les cantines.
D'autant que là, oui, c'est effectivement une compétence et ils avaient toute l'amplitude pour le faire. Alors donc, on est bien dans une démarche que j'aime appeler bio-marketing. Le bio, ça se vend, alors on va en faire. Ceci dit, certaines personnes, quand même, voient ça d'un pas si mauvais œil en considérant que peut-être un jour, la FNSEA deviendra elle aussi bio, et enfin, c'est bien ça l'objectif.
Oui, alors, sauf
Si on
que.
était vachement hein, joyeux et utopique.
Oui, non, mais ça peut avoir des effets positifs. Et
J'ai
c'est
juste un
bientôt
peu plus
Noël,
loin.
donc
Voilà,
on a
c'est
le droit
ça.
de rêver.
Voilà. Et je vais juste un peu plus loin. En forçant, par exemple, la fédération de chasse à faire de l'éducation à l'environnement, en forçant les chambres d'agriculture à venir faire du travail de terrain, en forçant la FNSEA à faire du bio, peut-être que finalement, Wauquiez est en train de transformer la région.
Oui, alors si on reprend la question de la bio, le problème c'est que dans la vision qu'on a nous de l'agriculture biologique, il n'y a pas uniquement la certification et le label. Il y a aussi derrière un rapport à l'agriculture, à la paysannerie. Et puis il y a aussi une question d'activité et d'emploi, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait aujourd'hui faire de la bio en intensif. Et
Sans
ça,
travail manuel.
malheureusement, ça ne crée pas d'activité, ça ne crée pas d'emploi. Donc ça ne revitalise pas non plus les campagnes et les zones rurales. Donc il y a tout un pan des impacts positifs de l'agriculture biologique et paysanne qui est totalement mise de côté. Si en plus vous rajoutez à ça qu'il y a dans ce plan bio des dispositifs d'aide à l'export, alors on a réussi au moins à faire passer cet amendement de les restreindre, mais si c'est pour faire de la bio localement et de l'exporter, tout l'impact même environnemental, vous le perdez, parce que quel sens ça a de faire plus attention à ce qu'on met dans les sols, si c'est ensuite pour faire transiter ces marchandises avec tout le lot de pollution que ça induit. Donc on voit assez bien quelles dérives on peut avoir sur la bio. Bon, je rajouterais qu'en plus, s'il y avait une vraie ambition de convertir tout le monde à l'agriculture biologique, les objectifs auraient été un peu plus ambitieux, puisque là on est simplement sur une augmentation qui correspond à la dynamique actuelle en bio. Donc, le plan de la région va même pas plus loin que la tendance qu'on constate ces dernières années de plus 6% de producteurs par an dans la région.
Et quelles sont les conditions pour ces chambres d'agriculture à dépenser ces 500 000 dont on parle? Quels sont leurs objectifs?
Alors, d'abord, ça va être beaucoup plus que 500 000, hein, parce que ça, c'est uniquement la part qu'elle
Ah oui,
récupère en plus
en plus.
de ce qu'elle touchait déjà. Après, en termes d'objectifs, bah, on n'a pas eu le détail, nous, malheureusement. Je vais vous dire, il a même fallu réclamer en commission d'avoir le détail du budget pour chaque axe d'action. C'est-à-dire qu'on nous demandait de voter sur un plan bio sans même savoir les sommes qui seraient allouées à chaque axe.
Oui,
Ce
c'est
qui
un
est quand
paquet.
même, voilà, ce qui est quand même tout à fait aberrant comme situation. Donc, on n'a pas le détail du cahier des charges et de ce qui va être demandé aux chambres d'agriculture. On a seulement des objectifs qui sont finalement assez vagues, hein, d'augmenter le nombre de producteurs, d'accompagner les agriculteurs qui sont déjà en bio ou ceux qui souhaiteraient se convertir à la bio, d'animer des réseaux d'information et sensibilisation. Enfin voilà, c'est des grands objectifs, mais on n'a pas le détail, hein, en termes d'obligations de moyens et en termes de contrepartie et de comptes qui seront demandés aux chambres. Et ça va être d'autant plus difficile de toute manière de leur demander des comptes que les chambres d'agriculture vont être jugées parties dans cette affaire, puisque la chambre régionale d'agriculture, hein, qui fédère les chambres départementales, se retrouve à piloter le comité régional qui va assurer le suivi de ce plan bio et qui va passer commande à la chambre régionale d'agriculture. Donc elle va se passer commande à elle-même, hein, d'un certain nombre d'actions. Donc on est dans un cas tout à fait manifeste de situation où la région met un acteur en situation d'être jugé partie, ce qui risque de poser un certain nombre de soucis sur l'application de ce plan.
C'est même presque limite du détournement, non, de... Enfin, il n'y a pas un truc comme ça, là? On peut... Alors, quels amendements avez-vous proposés pour contrer ça?
Alors, on a proposé plusieurs amendements. Il y en a un qui visait donc à être un petit peu plus ambitieux et à être non pas sur une augmentation de 6% par an du nombre de producteurs, mais de 9% par an. Ça a été rejeté. Il y en avait un qui visait à réintégrer les acteurs historiques qui avaient été exclus du plan qui a été rejeté également. Il y en avait un sur justement l'approvisionnement dans les cantines, sur lequel je me suis déjà exprimée. Il y en avait un également sur la question du foncier. faisant remarquer que c'est bien de vouloir augmenter le nombre de producteurs, mais si on continue à bétonner les terres agricoles, à un moment donné, ils ne vont plus avoir beaucoup d'endroits où s'installer. Bon, qui était l'occasion pour nous de remettre une couche sur le projet de doublement de l'autoroute A45 entre Lyon et Saint-Étienne, le Center Parcs, le Lyon-Turin et tous ces grands projets inutiles qui prennent des terres aux paysans. Il y avait également un amendement sur la priorité donc, aux marchés locaux et de restreindre les dispositifs d'exportation de ces produits bio à un petit nombre de produits vraiment spécifiques à forte valeur ajoutée. Celui-là a été adopté et on a aussi réussi à faire passer le principe d'avoir des moyens alloués à ce plan qui soient proportionnels au nombre de producteurs. C'est-à-dire que tout simplement, bah, si effectivement le nombre de producteurs en bio augmente, bah, les moyens qui leur seront dédiés augmenteront aussi. Donc voilà, ça c'était quand même deux points de satisfaction d'avoir réussi à faire passer ça. Et puis le dernier, c'était sur la conditionnalité des aides, puisque il y a une partie de ce plan qui prévoit d'aider les entreprises de transformation, ce qu'on appelle l'aval, hein, donc l'industrie agroalimentaire. Or, on sait que dans ce secteur, on a aussi bien des artisans, des petites entreprises que des très grosses entreprises. Voilà, nous, notre souci était d'aider en priorité les petits, ceux qui en ont besoin, et de ne pas aller donner à nouveau de l'argent public à des grands groupes qui font des profits et qui n'ont pas besoin de cet argent.
Ce qui nous permet de glisser tout facilement d'un sujet à un autre avec cette condition des aides publiques Corée de Montréal d'Arleux, Aubert et Duval licencient.
Oui, Aubert et Duval, c'est cette entreprise à qui la région avait décidé de donner 1,2 million d'euros de toute urgence dès la première session d'installation du Conseil régional.
C'était un peu le stress.
Voilà, et c'était tellement urgent que bon, nous, on avait déjà dénoncé à l'époque le fait que, en réalité, cette petite entreprise Aubert et Duval fait partie d'un groupe. Grand groupe qui s'appelle Eramet, qui dégage des profits, qui verse des dividendes à ses actionnaires. Donc on n'était pas sûr que ce soit la priorité de leur donner plus d'1,000,000 d'euros. Et puis bah, malheureusement, les faits nous donnent raison, puisque cette entreprise aujourd'hui annonce le licenciement de 70 personnes à Firminy, dans la Loire. Et donc nous avons posé une question orale et demandé si la région comptait effectivement demander le remboursement de cette somme ou si on continue à financer des entreprises qui font des profits et qui licencient.
Et alors ?
Et alors, nous avons eu la surprise d'apprendre que cette aide votée de toute urgence en janvier n'avait toujours pas été versée à Aubert et Duval.
Ah.
C'est-à-dire que, alors bon, dans ce cas-là, ça nous arrange.
Donc la région est responsable du licenciement des 70.
Dans ce cas-là, ça nous arrange, mais c'est quand même hallucinant de voir qu'on nous fait voter en urgence une aide, qu'elle est votée et qu'ensuite le président de région se réserve la possibilité de verser ou non cette aide. C'était donc en février, on est en novembre et on apprend par hasard, parce qu'on pose la question, que cette aide votée en février n'est toujours pas versée en novembre. Ce qui est quand même tout à fait effrayant, parce qu'on imagine que si Laurent Wauquiez fait ça pour d'autres aides, pour des subventions, pour des associations, pour des projets. Voilà, en gros, c'est à la discrétion, une fois de plus, du président de région, ce qui est tout à fait surprenant.
Ceci dit, c'est effectivement ce qu'on entend dire auprès d'un certain nombre d'associations et d'acteurs du coin, hein, pour parler des gens du DIWA, qui sans doute s'exprimeront sur le sujet dans différentes interviews et à cette antenne, et l'ont déjà fait, c'est que tant qu'on n'a pas la lettre de M. Wauquiez, on ne sait pas ce qui a été voté, même en commission permanente.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que moi, du coup, je fais une veille spécifique sur les dossiers du DIWA quand je reçois les rapports pour pouvoir dire assez rapidement, notamment à la communauté de communes, les projets qui sont bien prévus. Parce que, effectivement, en général, ils n'ont pas de nouvelles, eux, de la région. Bon, là, c'était le cas, par exemple, sur la rénovation du théâtre de Die, hein, qui est bien passée, sur la manifestation à bicyclette de la Dromoise, qui est bien passé également. Voilà, donc moi, ça me permet de confirmer. Il y a Trajet Spectacle, par exemple, aussi, pour parler d'autres structures sur DIE, qui est bien passé aussi à cette commission permanente. Mais c'est vrai que c'est quand même incroyable qu'il faille que j'aille, moi, faire une recherche par mots-clés dans les 5500 pages de rapport pour que la communauté de communes puisse avoir une information sur les différents projets qui sont suivis, quoi.
Et tout ça pour gagner un petit peu de temps temps, puisque finalement, au bout d'un moment, on commence quand même à recevoir cette lettre. Ces conditions d'aide publique également viennent remettre en question un débat assez important qu'il y a eu aussi à la région concernant le RSA que la région doit distribuer.
Oui, alors il y a eu effectivement un débat important sur cette question, puisque Laurent Wauquiez a annoncé le 27 octobre, je le dis hein, parce que c'est important, c'est une annonce qui a été faite le 27 octobre et le vote a eu lieu le 17 novembre. Donc là, il prend vraiment de plus en plus d'avance sur les votes à la région. Donc le 27 octobre, Laurent Wauquiez a annoncé qu'il avait passé des contrats avec 10 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les bénéficiaires du RSA.
Dont la Drôme, par exemple, parce qu'il y a eu cette campagne complètement hallucinante là, qu'on voyait partout.
La Drôme, effectivement.
Le bénévolat, l'URSA.
Voilà, la Drôme est effectivement concernée, hein, puisque de toute manière, maintenant, le département est sur la même ligne que Laurent Wauquiez au niveau de la région. Je rappelle que c'est Laurent Wauquiez qui parlait du cancer de la Cistana, hein, en parlant de ses bénéficiaires des aides sociales. Et donc, sur le RSA, il a annoncé tout guilleret que, avec ses nouveaux contrats avec les départements, les bénéficiaires du RSA qui suivraient une formation auraient une prime de 400 euros par mois et donc ne verraient pas leur revenu baisser. Alors, on est allé regarder d'un peu plus près ce que cachait cette annonce. La première chose, c'est que en réalité, ce dispositif, il existait déjà au niveau de certains départements qui prévoyaient déjà effectivement une prime pour que ce ne soit pas pénalisant pour les bénéficiaires du RSA de rentrer en formation. Donc, on n'avait pas besoin de Laurent Wauquiez pour le faire. Première chose. Deuxième chose, en réalité, il semblerait que ce dispositif ne concerne que 1200 bénéficiaires du RSA sur l'ensemble de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est quand même assez limité. Et puis troisième chose, et la plus importante, c'est que Laurent Wauquiez a annoncé ça comme un droit supplémentaire, un pas en avant pour les bénéficiaires du RSA. En réalité, il n'y a pas de droit supplémentaire. Par contre, il y a des grosses sanctions supplémentaires. C'est-à-dire qu'en contrepartie, les gens qui sont au RSA et qui vont rentrer dans le dispositif, s'ils ne suivent pas jusqu'au bout leur formation ou s'ils refusent deux formations, se verront privés de leur droit au RSA, de leur droit à la formation et de leur tarif préférentiel dans les TER pendant 2 ans. Ça veut dire que pendant 2 ans, on précipite des gens qui étaient déjà en difficulté, pour le coup, dans l'extrême précarité. Voilà la réalité de ce dispositif sur le RSA de Laurent Wauquiez.
Ah, évidemment, on les attendait, ces contreparties. Mais du coup, je ne comprends pas. 1200 personnes concernées et en fait, tout le monde peut perdre son RSA
Ça, c'est pour les gens qui seront dans le dispositif.
Donc, il n'y a que 1200 personnes qui pourront avoir accès à ces plans de formation ?
A priori, c'est une estimation, parce que pour l'instant, tout ça est encore assez flou. C'est-à-dire, c'est toujours pareil, hein. Il y a les effets d'annonce, puis après, il y a la réalité. Pour l'instant, à toutes les questions qu'il y a eu, Laurent Wauquiez a été très vague sur les critères, qui va pouvoir rentrer dans ce dispositif exactement, qui ça va concerner, sur quelle base, est-ce que ce sera sur la base du volontariat, est-ce que c'est des gens qui vont être triés dans les fichiers des départementaux, sur quels critères, ça on ne sait pas. Mais a priori, notamment du côté des journalistes un peu sérieux qui ont enquêté sur le sujet, en recoupant les différentes informations et les différentes explications, ils estiment que ça ne devrait pas concerner beaucoup plus de 1200 personnes effectivement au niveau de la région. Voilà.
Donc ce n'est qu'un potentiel de 1200 personnes qui peut-être sortiront d'un dispositif RSA s'ils ne suivent pas les conditions imposées là.
Voilà, on espère que ça ne va pas effectivement s'étendre et se généraliser à tout le monde. Oui.
Ouf, tant pis malheureusement pour ces gens, mais du coup ça fait un espèce de débat super long pour pas grand chose. Quel est l'intérêt de vous proposer quelque chose comme ça, enfin,
Ça s'appelle de la publicité. Quoi.
C'est nul, oui.
Ça s'appelle de la publicité. Laurent Wauquiez est en campagne, lui aussi. Bon, là, il vient de se prendre un grand coup sur la nuque avec l'élimination de son mentor Nicolas Sarkozy aux primaires. Mais il creuse son sillon de meilleur élève de cette ultra-droite libérale, conservatrice, réactionnaire. Et ça lui permet de faire passer ce message qu'il est intransigeant et qu'il sera exigeant sur les contreparties à ses aides aux bénéficiaires du RSA. Son credo, c'est ça, hein, c'est de montrer à quel point lui n'est pas laxiste, est intransigeant, etc. C'est la droite dure qu'on attendait malheureusement et elle est au rendez-vous.
Ça me fait penser à ce débat qui est un peu loin de nous, et d'ailleurs j'ai encore appris que des gens n'étaient pas au courant, dans la municipalité que dirige la maman de Laurent Wauquiez, il est question d'accueillir des réfugiés comme à Alès par exemple, et elle est a priori d'accord mais ne veut pas faire de vote pour ne pas faire d'ombre à Laurent Wauquiez. Parlons justement d'Alès, de ces questions de sécurité, de caméras de surveillance, tout ça a été remis aussi en avant. La droite dure. Hein,
alors effectivement, c'est un peu la suite du triptyque, c'est réfugiés et sécurité. Hein. Laurent Wauquiez surfe sur ces deux thèmes depuis un an. Bon, côté réfugiés, moi j'étais samedi à Alex, il y avait une après-midi de débat et de soutien aux réfugiés qui sont arrivés au CAO à Alex. Et j'étais très heureuse de voir qu'il y avait beaucoup de monde, hein. Il y avait plus de 300 personnes qui étaient présentes, des débats de très bonne tenue et un chouette moment de solidarité qui montre aussi que pour peu qu'on laisse les habitants un peu tranquilles, les choses s'apaisent, hein, si on ne va pas souffler sur les braises comme l'a fait le Front National et comme l'a fait Laurent Wauquiez. Donc ça, c'est une bonne chose. Sur la question de la sécurité, bon, on a à nouveau eu là un long tunnel sécuritaire pendant cette session du 17 novembre, avec un nouveau plan, là encore, sécurité pour la région qui a été mis sur la table, qui concerne notamment la vidéosurveillance, alors que eux appellent vidéoprotection, naturellement, que nous appelons vidéosurveillance et qui consiste à équiper les abords des lycées, les gares, les TER et un certain nombre d'espaces publics dans les communes de la région en caméra.
Dans le TER ?
Ouais, tout à fait. Ouais. Dans le TER, effectivement. Donc, c'est un gros programme, hein, qui représente plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros. Pour installer ces caméras, parce qu'une caméra, ça coûte 37 000 euros à l'achat, sans compter les 8 000 euros par an et par caméra pour les faire fonctionner, et sans compter l'étude de faisabilité pour chaque dispositif, où vous rajoutez encore 80 000 euros. Vous multipliez ça par le nombre de caméras pour équiper tous les lycées, toutes les gares, les TER et les espaces publics au niveau de la grande région, vous avez une idée des sommes que ça concerne, avec une efficacité qui nous laisse, nous, très dubitatifs au sein du groupe du Rassemblement. D'abord parce que quand il y a un problème, on n'a jamais vu une caméra se détacher et courir pour porter secours à la personne qui a un souci, première chose, contrairement aux êtres humains. Et puis, deuxième chose, c'est qu'on est allé regarder un peu les différents rapports sur l'efficacité de ces caméras. Et pour rester dans la région, on a un rapport, par exemple, de la Cour des comptes qui met en doute aussi l'efficacité de ces caméras, même sur l'élucidation après coup des incidents, puisque à Lyon, par exemple, où il y a des caméras de vidéosurveillance, la délinquance n'a pas beaucoup plus baissé dans les endroits où il y avait des caméras par rapport aux endroits où il n'y avait pas de caméras. Il n'y a que 2% de différence. Et à Villeurbanne, où il n'y a pas de caméras, la délinquance a davantage baissé sur la même période. Donc on voit bien que ce n'est pas la question des caméras. Et puis on s'est permis quand même aussi de rappeler lors de cette session que c'est bien sous Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République, qu'a été supprimée la police de proximité et qu'ont été supprimés 12 000 postes
d'éducateurs de rue,
de policiers, sans parler des éducateurs de rue. Ouais. Là, on l'a vu au niveau du département.
Ouais,
donc ces gens-là, tous ces élus des Républicains, dès qu'ils sont en place, s'empressent de supprimer la présence de personnes, d'êtres humains formés, qualifiés pour intervenir, et de les remplacer par des caméras, ce qui paraît totalement saugrenu et en plus coûteux.
Par ailleurs, je me suis toujours posé cette question, mais est-ce que la vidéo est bien recevable devant un tribunal ? Il semble pas, c'est très très peu utilisé.
Bah, la vidéo, alors quand les caméras sont branchées, quand il y a quelqu'un derrière pour regarder les images ou que les bandes sont enregistrées et conservées, ce qui déjà est loin d'être le cas dans tous les dispositifs de vidéosurveillance, peut fournir des indications, des images pour aider les enquêtes de police.
Sauf que
la plupart du temps, d'abord, les images, il faut pouvoir les exploiter, parce que moi, je ne sais pas vous, mais si je m'apprêtais à commettre un délit, j'éviterais d'être à visage découvert et de me mettre sous une caméra. Bon, première chose. Donc, en réalité, il y en a très peu qui sont exploitables pour cette raison-là.
Bon, donc voilà, plouf. En tout cas, il y a peut-être de l'argent à se faire au niveau des caméras. Moi, je ne savais pas qu'une caméra comme ça, ça valait ce prix-là. Hein. On imagine une espèce de grosse caméra pour faire du travelling à Hollywood à ce prix-là. Enfin bon, bref. En changeant de sujet, Corinne Morel-Darleux. Ah si, quand même, je voulais juste qu'on rajoutait que c'était gratuit maintenant les théoraires pour les policiers armés, c'est ça ? Donc
oui.
Si on n'est pas armé, policier mais pas armé, c'est pas gratuit, mais avec un flingue...
C'est ça,
bon.
C'est-à-dire que si vous êtes bénéficiaire du RSA, mais que vous n'avez pas pu mener votre formation jusqu'au bout, vous n'avez plus le droit à la gratuité du TER. Par contre, si vous êtes un policier au repos et que vous avez envie d'aller passer le week-end quelque part ou d'aller visiter votre famille ailleurs, vous pouvez prendre le TER maintenant gratuitement, à condition que vous ayez bien votre arme sur vous, ce qui est désormais possible, hein, merci le gouvernement, puisque grâce à l'état d'urgence, on a maintenant cette nouvelle disposition qui permet aux forces de l'ordre d'être armées même en dehors de leurs heures de service. Hein, je me permets de le rappeler à tous les citoyens qui ont envie de se balader en sécurité. Et donc maintenant, grâce à Laurent Wauquiez, non seulement ils ont le droit de porter leurs armes en dehors des heures de service, mais ils ont même le droit de prendre le TER gratuitement, sous réserve bien entendu d'intervenir s'il y avait un incident.
Évidemment.
Voilà qui devrait rassurer tous les voyageurs et les sentir très sécurisés lorsqu'ils prennent le train.
Voilà, il y aura toujours quelqu'un pour sauter sur le terroriste. Hein. On a vu des actes héroïques comme ça. Et puis c'était des Américains, alors c'est dommage. On pourra le faire nous. Donc passons à un autre sujet. Vous vouliez aborder la question de la COP22 là, qui vient de se terminer. Et vous aviez posé un vœu d'ailleurs en ce sens à la région.
Oui, tout à fait, parce que du coup, au milieu de tout ça, voilà, on essaye de ne pas être juste en réaction aux horreurs qui nous arrivent, mais d'être aussi un petit peu à l'initiative. Et donc on en a la possibilité lors de ces sessions en déposant des vœux. Et donc on a déposé un vœu là du rassemblement sur la COP22, puisque c'était d'actualité. Hein. La COP22, elle a eu lieu ces derniers jours à Marrakech. Là, elle vient de se terminer, bon, sur un constat d'échec comme d'habitude à chacun de ces sommets climat. Mais du coup, c'était quand même l'occasion pour nous de rappeler dans ce vœu que ça ne suffit pas d'illuminer la tour Eiffel en vert, comme l'ont fait Ségolène Royal et Anne Hidalgo pour se féliciter de l'accord de Paris, ce qui, soit dit en passant, en termes d'économie d'énergie, est quand même plus que douteux. Mais que, voilà, plus sérieusement, il y a besoin d'actes concrets. On ne peut pas, quand on est aujourd'hui au gouvernement, à la fois se féliciter de l'accord de Paris sur le climat et en même temps ne pas revenir sur le décret d'autorisation de circulation des 44 tonnes, ces espèces de méga camions extrêmement polluants sur les routes, ne pas revenir sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, sur tous ces projets qui vont totalement dans le sens inverse de ce qu'il faudrait faire pour limiter l'augmentation des températures à 1,5 degré à la fin du siècle. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est sur une trajectoire qui nous mène à 3 ou 4 degrés en 2100, ce qui, de l'avis de tous les scientifiques, quelles que soient leurs convictions et leur bord politique ou leur position par rapport au climat, serait une terre inconnue. C'est-à-dire qu'au-delà de 2 degrés, on ne sait pas ce qui se passe. En termes d'emballement, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc voilà, à force de dire, ça fait des années depuis le Club de Rome et les années 70 qu'on dit qu'il y a une urgence. Et malheureusement, voilà, on constate que les choses continuent à aller dans le mauvais sens et ce qui devient insupportable, c'est de voir ces élus, ces ministres, ce gouvernement continuer à dire qu'il y a urgence et continuer à faire exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Donc ce vœu sur la COP22, voilà, c'était un peu... l'occasion de rappeler ça, de lister des choses très concrètes que pourrait faire le gouvernement s'il était un tout petit peu cohérent avec ses discours. Et puis de rappeler aussi que il y a le nouveau scénario négawatt qui va sortir le 25 janvier, qui pourrait très utilement servir de feuille de route au gouvernement en matière de transition énergétique. On les a reçus d'ailleurs à Die. C'était
l'assemblée annuelle.
L'assemblée annuelle de Négawatt qui a eu lieu au Martouret et qui était très instructive et à mon sens beaucoup plus intéressante que le plan pluriannuel de l'énergie présenté par Ségolène Royal au même moment.
Ce vœu, évidemment, n'a pas été soutenu par la région.
Non, alors je vous avoue que vu comme il était rédigé, on avait assez peu d'espoir qu'il soit soutenu par qui que ce soit d'ailleurs, parce qu'on a été les seuls à le voter, aucun des autres groupes ne l'a voté. Mais ce n'est pas étonnant, puisque c'était un vœu qui prenait position très clairement pour la sortie du nucléaire, contre les gaz de schiste, enfin voilà, pour un certain nombre de mesures dont on sait que malheureusement, aujourd'hui, nous sommes les seuls à les porter au sein de la région.
Ce qui est bien de le rappeler. Voilà, sur un petit coup comme ça. Autre sujet encore, la question de barrages hydroélectriques qui seraient privatisés. Alors, moi j'apprends ça, je pensais qu'ils étaient tous plus ou moins privatisés ou à partir du moment où ils appartenaient à EDF, vu que c'est maintenant une boîte privée, non ?
Alors, pas encore tout à fait, effectivement, mais il se trouve que j'étais à Chambéry, là, mardi dernier, dans le cadre d'une visite de terrain avec Jean-Luc Mélenchon. On était à la centrale souterraine hydroélectrique de La Bâtie. Donc en Savoie, et on y était justement par rapport à ce sujet, puisqu'il se trouve que l'Union européenne met en demeure la France, tenez-vous bien, d'ouvrir à la privatisation la concession de ces barrages. Et ça, c'est évidemment un sujet dont on n'entend pas beaucoup parler et qui est pourtant très important, puisque ces barrages, c'est un peu la variable d'ajustement du réseau en France. C'est-à-dire que concrètement, quand vous avez des pointes de consommation ou au contraire des consommations plus basses, vous ne pouvez pas tourner un bouton dans une centrale thermique ou dans une centrale nucléaire, pas plus que sur une éolienne. La variable d'ajustement est ce que vous pouvez activer, c'est-à-dire mettre en route ou arrêter très rapidement, puisque c'est à peu près 20 minutes, ce sont les barrages hydroélectriques. Donc c'est une composante absolument essentielle de notre mix énergétique, et on imagine bien que si les concessions sont confiées au privé, il faudra aller demander la permission, une fois de plus, à ces grandes entreprises du privé
de bien vouloir
éteindre ou mettre en route.
Impossible.
Vous imaginez que ça risque de ne pas aller tout à fait dans le sens de l'intérêt général. Donc voilà, c'est un combat qu'on mène depuis des années, parce que le risque, il est quasiment permanent. Mais là, il y a cette mise en demeure, cette injonction de Bruxelles qui vient en plus et qui du coup est l'occasion pour nous d'en parler parce qu'on trouve qu'il n'y a pas assez de médias qui en parlent. Et donc si les médias n'en parlent pas, on en parle nous.
Injonction, donc l'Europe impose à ce que ces barrages soient privatisés, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait.
Et alors le fait qu'ils puissent être gérés par une entreprise telle que EDF ou pourquoi pas racheter, allons-y, par Enercop qui revendique de faire de l'électricité verte, c'est pas une privatisation ça ?
Ah non, mais là ça veut dire que concrètement ça pourrait partir comme les permis d'extraction des gaz de schiste, ça pourrait partir à des entreprises privées étrangères, à des grands pétroliers, à des Total, E.ON et compagnie.
Ou n'importe qui a envie de s'acheter un barrage.
Exactement.
Et donc ces barrages sont quand même aujourd'hui gérés par des grands groupes électriques, mais sont propriétés de l'État.
Oui, enfin, tout à fait.
De comprendre complètement le...
Tout à fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils sont toujours dans une mission de service public.
Et donc entretenus par l'État aussi.
Tout à fait, ouais. Et donc raccordés au réseau et gérés par les réseaux publics de distribution de l'énergie.
Eh bien voilà, un sujet de plus sur lequel on attire le citoyen, la citoyenne. Un point également sur cette entreprise Ecopla là, qu'on a suivie depuis quelques temps. Où ça en est ?
Alors, on continue évidemment à être en contact avec eux et à suivre tout ça. On les a vus d'ailleurs mardi dernier à Chambéry aussi. Bon, leur dernier recours, leur dernier appel en justice, le deuxième, a également été rejeté. Donc, on est dans cette situation totalement aberrante, hein, où on a une entreprise à l'arrêt, des salariés sans travail, et un projet de reprise sous forme coopérative qui est rejeté par les tribunaux et donc qui confie la reprise à une entreprise italienne qui s'appelle Cookie, et puis dont l'objectif est de prendre les machines et puis de fermer le site. Donc on en est là. Eux ne baissent pas les bras pour autant, même si la légalité, entre guillemets, n'est pas de leur côté, la légitimité, elle, l'est toujours. Donc ils continuent à mobiliser et ils donnent notamment un rendez-vous à tous ceux qui le peuvent le 14 décembre à la Bourse du Travail à Grenoble pour un grand rassemblement, meeting, soirée de soutien pour continuer à explorer différentes pistes. Je sais qu'ils sont en contact encore avec Michel Sapin au niveau du gouvernement et puis on réfléchit aussi avec eux à des plans B.
Il y a encore une possibilité d'appel, alors ? On peut faire combien d'appels d'affilée ?
Alors, pour eux, de leur côté, il n'y a plus de possibilité d'appel ou de recours devant la justice. Après, il y a toujours des possibilités du côté des pouvoirs publics et du gouvernement.
C'est donc là l'appel. Pourquoi ils ne sont pas repris ? Il y a un vrai problème dans leur proposition de gestion ?
Non,
ou c'est tout simplement une opposition crasse ?
Il n'y a aucun problème, puisque même ils ont des demandes de leurs clients qui s'impatientent et les pressent de reprendre l'activité. Ils font des barquettes en aluminium. Ils ont des clients aujourd'hui qui leur disent « Mais quand est-ce que vous allez reprendre ? Parce que nous, là, on a été obligés de repasser à des barquettes plastiques ou à des barquettes en aluminium, mais qui ne fonctionnent pas bien de vos concurrents. » C'est les seuls fabricants de barquettes en aluminium en France. Donc, en plus, le carnet de commandes est plein. Ils sont attendus. Donc, il n'y a pas de réalité économique. La seule réalité, elle est financière. C'est que, et tenez-vous bien, c'est que en fait le patron voyou qui avait racheté Ecoplat et qui l'a laissé tomber et qui est parti a du coup mis cette entreprise en faillite en quelque sorte. Et le problème aujourd'hui, c'est les créances pour payer les salariés licenciés. Et donc l'entreprise italienne peut payer ces indemnités de licenciement. Alors que les salariés, eux, évidemment, ne le peuvent pas. Et donc, c'est uniquement sur le choix du tribunal administratif, en fait, c'est de privilégier les créances sur la viabilité de l'entreprise. L'entreprise, elle est viable. Elle peut être reprise demain, reprendre son activité. Elle a le carnet de commandes, elle a les machines, elle a les salariés qui savent faire. Mais c'est les créanciers qui passent avant la réalité économique.
C'est quand même étonnant, les salariés pourraient faire une proposition de dire « mais nous, on s'assoit sur les créances, c'est encore mieux, on ne se paiera pas notre licenciement puisqu'on part travailler ».
Oui, c'est tout à fait, sauf que malheureusement, ça fait quelques mois que ça dure déjà et il y a des créances aujourd'hui qui se sont installées. Mais honnêtement, c'est une... Enfin, vraiment, j'invite les auditeurs à aller chercher un peu sur Internet et tout ça, mais c'est un cas d'école. C'est un cas d'école, c'est-à-dire que c'est vraiment s'il y a un exemple de faillite du système, de situation dans laquelle on marche sur la tête, c'est vraiment la situation des salariés des Coplas. Et il y a eu pas mal de choses décrites là-dessus, notamment dans Fakir, dont je recommande la lecture.
Voilà, la justice qui donc enfonce le clou et préfère payer des licenciés, enfin faire qu'on licencie plutôt. Je me mélange du coup dans ces termes, ça fera plus de gens en RSA, c'est parfait. Il nous reste quelques instants encore. J'ai noté soutien aux Kurdes et puis cette question d'une librairie anarchiste qui s'est fait attaquer. Tout ça, quelques mots alors ?
Oui, parce que c'est ça aussi, c'est l'autre actualité, c'est en dehors de ce qui se passe à la région, il se passe aussi des choses dehors, et heureusement, j'étais à cette manifestation de soutien aux Kurdes, c'était la journée mondiale de solidarité avec Kobané, hein, du nom de cette ville en Syrie qui a été libérée du joug de Daesh par les Kurdes. Donc ça, c'était le 5 novembre à Paris, et c'était une manifestation d'autant plus importante quand on voit le chemin totalement dictatorial qu'est en train de prendre le régime d'Erdogan en Turquie. Et le lien est direct, hein, puisque pour Erdogan, l'ennemi aujourd'hui, c'est les Kurdes, avant même l'État islamique, ce qui est là aussi assez, assez inquiétant. Pour la suite, on est sur des arrestations de parlementaires, de maires, d'élus, de journalistes, de blogueurs, enfin voilà, tout ce qui ressemble à un opposant aujourd'hui en Turquie est en prison. Donc ça, voilà, je voulais pouvoir en dire un mot parce que depuis mon voyage au Kurdistan au printemps, ce sont des choses que je suis de près et avec pas mal d'inquiétude, je dois dire. Et puis l'autre chose, effectivement, c'est cette librairie anarchiste qui s'appelle La Plume Noire, qui est à Lyon et qui s'est fait attaquer de nouveau samedi par l'extrême droite. C'est une librairie qui avait déjà été incendiée en 1997, qui avait pu rouvrir grâce à la solidarité locale et qui a à nouveau donc été saccagée, attaquée, ainsi que ses occupants samedi en marge d'une manifestation de groupuscules extrémistes et fascistes, un rassemblement qui avait pourtant été interdit par la préfecture du Rhône. Donc voilà, on est un certain nombre à s'étonner qu'une manifestation interdite par la préfecture puisse tout de même se tenir. Moi, j'ai vu les photos, c'est assez impressionnant. Vous avez là des individus cagoulés, armés, qui manifestent et qui non seulement manifestent, mais peuvent aller s'en prendre à une librairie en plein cœur de Lyon. Tout ça est quand même un petit peu étonnant, pour le moins. Et j'espère qu'on aura des précisions de la part de la préfecture, parce qu'on est censé être encore en état d'urgence, hein. Ça vient d'être prolongé jusqu'à la présidentielle. Et il me semble qu'il y a d'autres manifestations qui n'ont pas pu se tenir dans les mêmes conditions. Donc on a un peu là deux poids, deux mesures. Et c'est assez inquiétant, une fois de plus, pour les libertés publiques.
Lyon étant notre plus grosse ville dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, la capitale peut-être, est-ce que vous êtes témoin ou vous sentez un climat bizarre dans cette ville en ce moment ? Nous, par d'autres biais, on connaît, c'est tout à fait connecté avec la radio, ce qui est en train de se passer à Radio Canu. Est-ce que par hasard, il y a un problème à Lyon en ce moment ?
Très honnêtement, quand je vais à Lyon, en général, c'est pour des réunions à la région. Je commence à traîner un petit peu plus mes guêtres dans la Croix-Rousse ces derniers temps.
Voilà, mais, ça va encore bien là-bas.
Mais le climat à Lyon, et notamment sur ces groupuscules identitaires d'extrême droite, c'est considérablement tendu ces dernières années ou ces derniers mois. C'est pas la première fois qu'il y a ce genre de choses. J'ai pas beaucoup plus d'éléments aujourd'hui par rapport au climat lyonnais. De manière plus générale, on est toujours un peu surpris de voir Laurent Wauquiez tendre la main à Gérard Collomb. Enfin, en même temps, je dis surpris, mais finalement, Gérard Collomb appliquant une politique de droite, c'est pas très étonnant que Laurent Wauquiez s'en sente proche. Voilà ce que je peux vous dire sur l'ambiance lyonnaise, mais je suis pas suffisamment présente dans la ville pour pouvoir mieux évaluer les choses.
Eh bien, on va se quitter comme ça, et puis pour se donner aussi rendez-vous également après les 15 et 16 décembre, c'est la dernière plénière de 2016. Avec notamment un nouveau budget.
Alors effectivement, donc la prochaine session, elle sera sur deux jours, 15 et 16 décembre. Ça va être une session importante puisqu'il va y avoir le schéma de développement économique, la convention avec la SNCF et le nouveau budget. Et donc nous avons toujours, nous, ce recours au tribunal administratif demandant l'annulation du budget 2016, qui pour l'instant n'a pas encore été jugé au fond. Et on attend, je dois dire, avec beaucoup d'impatience, une autre décision de justice qui va arriver, qui arrive là, ce mardi, sur Center Parcs. Puisque si ce projet de Center Parcs est de nouveau reconnu illégal, notamment au regard de la loi sur l'eau, par le tribunal, alors la subvention de 4,7 millions de la région à ce même projet sera... En toute logique, elle-même jugée illégale. Or, notre recours pour l'annulation du budget de la région était en partie basé sur l'illégalité de cette subvention à Center Parcs. Donc voilà, on attend ça avec pas mal d'impatience, à la fois pour le projet Center Parcs, mais aussi pour le budget de la région, sachant que, évidemment, si on en obtenait l'annulation, ça ne ferait pas tomber tous les projets, simplement on reviendrait aux règles du budget précédent et donc avec beaucoup moins de casse par rapport à toutes les régressions qui ont pu avoir lieu au niveau budgétaire cette année sous le règne de Laurent Wauquiez.
Ce qui annulerait quasi toutes les émissions qu'on a déjà fait ensemble. Ce serait génial. Enfin, génial au niveau radiophonique en tout cas. Merci Corinne Morel-Darleux et
merci,
donc à la prochaine.
Vous. À bientôt.
Interview.
Ok, de belle.
Interview. L'interview du jour.
L'interview du jour.